franceinter.com.
Tu sépareras la terre du feu, le subtil du danse, doucement, avec grand art. La table d'émeraude, texte fondateur de l'alchimie.
D'histoire, Patrice Gélinet.
Si avec leurs vieux grimoires, leurs cornues, leurs alambics et la légendaire pierre philosophale qui devait transformer le plomb en or, les alchimistes nous font aujourd'hui sourire, pendant des siècles on a pris leur science au sérieux. Depuis qu'à l'âge du fer, des hommes ont commencé à fabriquer des métaux. On ne les appelait pas encore des alchimistes, mais leur travail avait une telle importance qu'il était sacré et qu'il n'était pas question d'en divulguer les secrets. C'est de là que vient sans doute le langage ésotérique des alchimistes. C'est aussi la raison pour laquelle ils nous fascinent encore, même si on sait aujourd'hui que la pierre philosophale n'existe pas et que personne n'a jamais transformé du plomb en or, la chimie n'a pas fait disparaître les alchimistes, et ce qu'ils disent aujourd'hui est aussi hermétique qu'autrefois.
Bon, là, en ce moment, on est donc au premier œuvre, c'est-à-dire ce que les anciens appelaient le mâle et la femelle. Alors ce qui va se passer, c'est qu'en principe, on devrait les séparer. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une calcination qui se fait sur la partie mâle, et sur la partie femelle, que les anciens appelaient leur vierge minérale, on pousse la purification de façon à la nettoyer. Et c'est sur la vierge qu'apparaît l'étoile.
Sépare la terre du feu et le subtil du grossier, doucement et avec grande prudence. Il s'élève de la terre vers le ciel et redescend vers la terre, et reçoit ainsi la puissance des réalités supérieures et inférieures. De cette façon, tu auras la gloire du monde entier, et toute obscurité s'éloignera de toi. Ainsi est créé le petit monde sur le modèle du grand monde. De cela, et en cette matière, se font de merveilleuses expériences.
Alain Kerviel, bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez sûrement compris ce que l'on vient d'entendre. Moi, rien du tout. Hein. C'est un texte tiré de la Table d'Émeraude, qui, vous le rappelez dans un livre, est un texte fondateur de l'alchimie, dont vous avez écrit l'histoire, donc aux éditions Trajectoire. Un travail difficile parce qu'il doit s'appuyer justement sur des textes ésotériques, totalement incompréhensibles pour le profane. Pourquoi d'ailleurs est-ce que l'alchimie, les alchimistes aussi, qui existent encore, on vient d'en entendre un dans un reportage de France 3 en 96, pourquoi s'exprime-t-il dans un langage aussi abscon?
Ben écoutez, il y a plusieurs raisons à cela, moi je pense. Il y a une raison qui est un peu inhérente à votre question elle-même, à savoir qu'il y avait, si vous voulez, un tel relationnel, et le mot est faible, avec les puissants du temps et de tous les temps, que lorsqu'un alchimiste débarquait quelque part dans un coin d'Europe, en particulier au Moyen-Âge, bon, il était tout de suite happé par le puissant du coin, et puis ça se terminait en général très mal. Donc ça, c'était une raison, je dirais, pour se cacher, donc non seulement se cacher physiquement, mais se cacher derrière un langage. C'est peut-être une première raison, et là, je dirais la plus simple. Il y en a une autre également qui tient peut-être à une explication de l'alchimie, parce que si vous voulez, les grands travaux qui ont été faits sur l'alchimie au niveau des historiens de l'alchimie, c'est essentiellement au 19e siècle, enfin on y reviendra probablement, que sont Berthelot et Chevreul. Et Berthelot, lui, a une explication un petit peu particulière, je vous la laisse à votre appréciation, c'est que lui pense que, si vous voulez, il y a eu une communication entre les anges et des femmes, donc il y a eu des relations, et que ces relations donc auraient permis à avoir des hommes qui auraient eu la connaissance, et une connaissance, je dirais, très particulière.
Bon, ça, c'est aussi ésotérique que les tests à chimie. Oui. Non, je voudrais vous poser la question, parce qu'on dit aussi qu'au fond, c'était une industrie, c'était même la première industrie métallurgique du monde, le travail du fer, du cuivre, etc. Et comme toutes les industries, autrefois, dans l'Antiquité, il fallait cacher ses secrets, ses recettes de fabrication, et c'est de là que viendrait justement l'ésotérisme des textes de l'alchimie, dont les plus anciens, j'ai cité la table d'émeraude, eh bien, effectivement, est difficile à comprendre pour le profane. Il n'y a pas la volonté, justement, de garder secrète des recettes, par exemple, de fabrication de l'or.
Il y a ça aussi, mais bon, vous parlez de la table d'émeraude. La table d'émeraude, ce n'est pas un seul texte en tant que tel. Ça a été ramassé sous une forme d'un texte unique. En fait, on pense qu'elle est arrivée entre le 8e et le 12e siècle, et elle est des origines bien, bien antérieures. D'ailleurs, bon, vous n'avez cité qu'une partie du texte, mais dans la suite du texte, on parle de Hermès Trismégiste. Oui. Donc on fait appel, si vous voulez, à des dynasties égyptiennes très anciennes. Et donc, on est bien avant le 8e ou le 13e siècle, le début du Moyen-Âge, pour ce qui est de la table d'émeraude, qui est un texte fondateur du Moyen-Âge, si j'ose dire.
Et puis alors, ce qui m'est étonné en vous lisant aussi, c'est que l'alchimie ne vient pas simplement du Moyen-Orient, de Grèce, comme on le dit parfois, ou d'Égypte, même de très loin, d'Asie, de Chine. Oui. En fait, il y avait des alchimistes partout, même s'ils ne portaient pas encore ce nom, Alain Kerviel.
Exactement. Mais bon, là encore, ça va tellement loin dans les textes qu'il est difficile de donner une réponse affirmative. Pour ce qui est de l'alchimie indienne, on pense que c'est quelque chose qui a un lien avec la méditation, avec le yoga, enfin des choses comme ça, et la philosophie, bien entendu. Et puis pour ce qui est, je dirais, de la Chine, là, la Chine, on a des traces avec, si vous voulez, des demandes des empereurs chinois d'élixir de longue vie. Donc on revient à quelque chose qu'on verra arriver beaucoup plus tard en Europe, avec Paracels en particulier à la Renaissance. Mais c'est surtout ça, c'est pas tellement la transmutation du plomb ou des métaux vils, comme on dit, en or, qui suscite l'alchimie chinoise.
Le mot alchimie vient des Arabes, dites-vous, peut-être antérieurement de l'Égypte.
Alors là encore, il y a plusieurs signes.
Alchimia.
Oui, alchimia, on a parlé d'alchimia qui veut dire la dose ou la quantité. Personnellement, je ne crois pas que ça soit la bonne définition. J'aurais plutôt tendance à penser que c'est plutôt chimia, qui veut dire, si vous voulez, terre noire. Et parce que cette histoire de terre noire déboule souvent dans l'alchimie, en particulier dans les opérations alchimiques, où vous avez toute une période de destruction de la matière qui correspond aux six premiers mois de l'année, l'année démarrant au printemps, et vous avez donc une reconstitution de la matière, donc œuvre en blanc après l'œuvre en noir, et qui déboule sur l'œuvre en rouge avec la pierre philosophale.
En tout cas, une science qui n'apparaît en Europe, en tout cas par l'Italie, par l'Espagne, jusqu'en France, au Moyen-Âge.
Vous verrez, sire, c'est un bien curieux esprit.
Il vit comme un ermite.
Vous voyez, sire, il poursuit ses recherches.
Qui pourrait le conduire au gibet?
Mais s'il trouvait une bonne recette pour faire de l'or.
Ah, cela améliorerait singulièrement nos finances.
J'ai sondé la médecine et l'astrologie. Néant. Le corps humain, ténèbres. Les astres, ténèbres.
Quoi croyez-vous donc?
Credo in Deum.
Terminum nos.
Ah, je crois aussi à l'alchimie. L'or, c'est la lumière.
L'or? Avez-vous fait de l'or?
Je n'ai pas erré depuis si longtemps dans les cavernes de la science sans apercevoir devant moi une lumière, une flamme.
Une flamme? Mais dites-moi, révérend maître, votre science n'est-elle pas ennemie ou déplaisante à Notre-Dame?
Notre-Dame, j'en suis sûr, veille sur mes recherches.
Et c'était un extrait de Notre-Dame de Paris, dont l'action se situe au Moyen-Âge. À cette époque et encore aujourd'hui, on résume l'alchimie au fond à la recherche de la fabrication de l'or. C'est peut-être son activité la plus connue, Alain Kerviel.
Alors, je vais revenir un petit peu parce que vous parliez tout à l'heure qu'il y a une industrie métallurgique qui s'est un petit peu développée. Et les alchimistes ont vraiment fait des recherches pour trouver la recette de fabrication de l'or. Ils ne l'ont jamais trouvée, comme vous l'aviez dit dès le départ. Mais en fait, si vous voulez, ils ont trouvé toutes les bases de la chimie, ou tout au moins, ils les ont retrouvées. Hein. Donc ça, c'est une première chose. Mais je crois qu'en dehors de ça, il faut, pour éviter toute confusion, parler de l'or normal, entre guillemets, et de l'or des alchimistes. Si vous voulez, pour les alchimistes, de l'or que vous extrayez d'une mine quelconque avec une pépite, c'est de l'or mort. Ça n'a aucun intérêt. Tandis que pour l'or alchimique, c'est l'or vivant, c'est l'or qui ressort de la combinaison de la transmutation d'un métal grâce à la pierre philosophale et grâce à, si vous voulez, la réaction du principe soufre, du soufre-principe sur le mercure-principe, comme ça a été dit donc en début d'émission. Et là, ces manipulations vont permettre d'avoir une pierre, d'avoir une recette qui est censée fabriquer de l'or.
Par la pierre philosophale.
Voilà.
Ça, c'est le grand mot.
Ah, c'est le grand mot, hein. Et c'est un mot qui est arrivé au Moyen-Âge seulement.
Dans la découverte, ça s'appelle le grand œuvre. Hein.
Oui.
Alors, ça, évidemment, ça explique peut-être tout l'intérêt des monarques. On entendait Louis XI dans l'extrait du film, et vous évoquez Philippe le Bel. Pour justement, les alchimistes, après tout, c'était un moyen pour eux d'améliorer les finances du royaume.
Oui, certainement, parce que les finances étaient toujours en déficit. Oui, surtout Philippe le Bel, avec le trésor des Templiers, on sait ce qu'il a fait. Mais il avait également, si vous voulez, des alchimistes à son service, et il est évident qu'il les aidait et qu'il recherchait tout moyen d'assurer le budget du mois, si j'ose dire. Donc il avait certainement beaucoup d'intérêt pour les alchimistes.
Les papes aussi.
Les papes aussi. Alors les papes, bon, il y a eu, bon, puisque on parlait de.
En tout cas au début.
Oui, il y en a eu un, c'est Gerbert d'Aurillac,
oui.
Voilà, Sylvestre II. Et puis alors celui qui est un peu plus connu, puisque j'ai fait allusion à l'instant au trésor des Templiers, donc plus ou moins par allusion au roi maudit, où il y a le fameux cardinal Duez des rois maudits qui devient Jean XXII et qui va être qui est soi-disant présenté comme un pape intermédiaire parce qu'il est élu à 77 ans. En fait, il va durer encore une quinzaine d'années sur le trône de Saint-Pierre. Et il se passe que ce pape pose problème parce qu'il s'est prononcé officiellement contre l'alchimie, mais à sa mort, on a trouvé des lingots, beaucoup de pièces d'or, et on s'est toujours demandé s'il n'y avait pas eu un laboratoire d'alchimie en Avignon, je n'en sais rien.
En tout cas, les jésuites aussi, beaucoup de jésuites ont été de grands alchimistes, vous citez Arnaud de Villeneuve, Roger Bacon, Raymond Lulle, Albert le Grand aussi, qui n'était pas jésuite, mais enfin, en tout cas, qui était religieux.
Oui.
La religion, au début, ne semble pas s'inquiéter, au fond, de quelque chose qui pourrait l'inquiéter, c'est-à-dire, au fond, quel est l'objectif de l'alchimiste? De transformer la nature créée par Dieu.
Oui, donc...
On aurait pu se dire, tiens, la religion va sûrement les condamner.
Elle les a condamnés, de toute façon. Elle les a condamnés, ça c'est certain. Et d'ailleurs, ceux que vous citiez en général ont été obligés soit de se rétracter dans le cas de Roger Bacon, ou soit, si vous voulez, dans le cas d'Albert le Grand, ont été obligés d'abandonner des fonctions, je dirais, relativement importantes dans la hiérarchie ecclésiastique, puisque Albert le Grand était évêque de Ratisbonne. Donc tous ces gens-là, si vous voulez, se sont mis l'église à dos, ça c'est certain. Roger Bacon, c'est le pire.
J'ai vu votre collection d'instruments, admirable. Vous avez aussi un cabinet de médailles, une galerie d'antiques. Enfin, cet or dont le bruit est venu jusqu'à moi.
Imaginez que votre majesté prenne une colline. Mine le roc à grand renfort de mèches et de poudre. Je creuse à des profondeurs énormes. Je bouleverse, concasse, chauffe et sépare le minerai. Au bout de toute cette peine, l'or jaillit.
Messieurs, la cour.
Monsieur le Président, messieurs les conseillers, l'affaire est simple. Il y a ici crime de sorcellerie. La sorcellerie est punie de mort, je demande la mort.
C'est le feu de l'enfer. Voyez, les trois couleurs, diaboliques. Le plan est du plan, messieurs. Le reste est d'affaires sataniques.
Freisit vos mute in this enchanted chair. Then thrice three times tie up this true love's knot. And murmur soft she will, or she will not. Then thrice three times tie up this true love's knot.
Lance trois fois ses cendres de chêne, c'est un chant du XVIIe siècle en Angleterre, l'Angleterre qui avait beaucoup d'alchimistes et puis qui les a aussi persécutés. Vous citez quand même le cas d'un certain nombre d'alchimistes qui en ont souffert, le cas de Roger Bacon, justement, qui était un théologien anglais, qui a fait, il a pas été brûlé, mais enfin, il y a eu 20 ans de cachot, je crois.
Oui, 20 ans de cachot, et puis les juifs, il a été obligé surtout de se rétracter, malgré tous les... D'ailleurs, en mourant, il a dit « je me repens d'avoir tant travaillé pour la science ». Enfin, c'était vraiment... Ça symbolisait malheureusement toutes les souffrances de sa vie.
C'est assez dur la vie de l'alchimiste telle que vous la décrivez. D'abord, ils vivent comme des ermites.
Ah oui,
ils sont coupés du reste du monde. Pour quelle raison d'ailleurs ?
Bah parce qu'ils sont pourchassés par le pouvoir pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc, ils n'ont qu'une seule solution, c'est de se cacher. Mais à contrario, le mot malheureusement était mal choisi, à contrario, je dis bien, le bouche à oreille fonctionnait très bien, ces alchimistes. Et même s'ils étaient pourchassés par l'Église en tant que quantité, ils se regroupaient, ils étaient protégés dans les églises, dans les sites. Et il se dit qu'à Paris, il y avait certaines églises où ils se rencontraient le vendredi et ils discutaient un petit peu des dernières nouvelles. Quoi.
Et puis leur travail était très compliqué, ça tient à leur science d'ailleurs. Hein.
Oui.
Il y a toutes les étapes justement de leur travail qui est un travail de scientifique.
Oui, absolument.
Comment par exemple était-on censé fabriquer de l'or ?
Ah, alors là, si vous voulez, on parle toujours de la pierre philosophale.
On parle de l'œuvre noire.
On parle de l'œuvre noire. Donc, si vous voulez, pendant les trois premiers mois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y avait une destruction de la matière. Et puis ensuite, ça continuait. Une fois que la matière était réduite en cendres, on essayait de la transformer autrement, qu'on ait les six autres mois où on reconstruisait la matière. Bon, ça, c'est la théorie. Au niveau, si vous voulez, du fonctionnement opératif, on parlait du soufre-principe et du mercure-principe, comme je l'évoquais tout à l'heure. Le soufre-principe, on sait que chimiquement, si on peut exprimer ainsi, c'était quelque chose à partir... Il y avait un peu d'or dedans. Bon. Le mercure-principe, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on n'a jamais su. Tout le monde a cherché, on a pensé que c'était l'arsenic, on a pensé que c'était l'antimoine, on n'a jamais réussi à trouver. Bon. Donc c'est pour ça que ça pose problème.
Alors, ça pose d'autant plus de problèmes qu'en fait, en réalité, leur quête était vaine. On n'a jamais réussi à découvrir ou à fabriquer, je ne sais pas si ça se fabrique ou ça se découvre, la pierre philosophale, ni à fabriquer de l'or. Il y a quelques cas que vous citez quand même, où il est question justement de découverte de la pierre philosophale.
Alors, il y a déjà, pour la première partie de votre question, il y a un problème, c'est que c'est ce qu'on appelle en alchimie de la poudre de projection.
Oui.
Et le terme porte bien son nom parce que les explications, disons, qui manquent concernant des transmutations, je dirais, relativement inexpliquées, dont je vous parlerai après, elles sont dues au fait qu'au dernier moment, en général, lorsqu'une une projection a été décidée, il y a quelqu'un qui a jeté dans le feu une poudre. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans la poudre ? On n'en sait rien, on n'a jamais réussi à la fabriquer. Ça, c'est un premier point. Pour ce qui est des deux autres points, c'est qu'il y a eu deux transmutations inexpliquées au XVIIe siècle. Il y en a une, donc, avec Van Helmont, qui était un alchimiste et chimiste et philosophe, enfin, un grand monsieur du XVIe. Et puis, vous en avez une autre chez Helvétius en 1666, qui demeure ici inexpliquée, et qui a été justifiée ou authentifiée, enfin, par Spinoza, qui était présent, je dirais, pendant ces transmutations. Et puis, il y en a une demi-transmutation qui a été réalisée au XXe siècle, parce que les alchimistes ont perduré jusqu'au XXe siècle au moins, je dirais, par toute l'équipe Cancelier, Fulcanelli, en 1922, mais on ne sait pas très bien ce qu'elle est advenue.
Oui. Voilà, on dit même il y a un homme célèbre dans l'alchimie qui est Nicolas Flamel, dont la fortune est parue suspecte. On s'est dit, ça y est, lui, il a découvert le moyen de faire de l'or. En fait, on s'est rendu compte qu'il n'en était rien, que c'était plutôt un usurpateur, et il n'y avait plus grand monde d'ailleurs. Il n'y a plus grand monde aujourd'hui pour croire on peut trouver la pierre philosophale.
C'était un très bon financier.
Bon, il y a quand même quelques personnes qui y croient, les inconditionnels d'Harry Potter.
Écoutez-moi bien, tous les trois, vous vous mêlez de choses qui ne vous regardent absolument pas. C'est dangereux. Ce que garde ce chien, c'est une affaire entre le professeur Dumbledore et Nicolas Flamel.
Nicolas Flamel ? Qui est Nicolas Flamel ?
J'ignore.
Nicolas Flamel est le seul à avoir fabriqué la pierre philosophale.
La quoi ?
La pierre philosophale est une substance légendaire dotée de pouvoirs étonnants. Elle peut transformer n'importe quel métal en or et elle produit l'élixir de longue vie qui rend immortel celui qui le boit.
Immortel ?
Ça veut dire qu'on ne meurt jamais.
Je le savais, merci.
Chut ! La seule pierre qui existe de nos jours appartient à M. Nicolas Flamel, l'illustre alchimiste qui a fêté récemment son 665e anniversaire.
Voilà ce que Touffu garde au troisième étage.
Voilà ce qui se trouve sous la trappe, la pierre philosophale.
Et oui, on l'a entendu, hein, la pierre philosophale ne servait pas seulement à fabriquer de l'or, si c'était possible, elle servait aussi à trouver l'immortalité par un élixir de longue vie, hein, ce qu'on appelle la panacée, le remède universel contre toutes les guérisons. Ça, c'est une chose dont on parle moins, mais c'était aussi une des finalités de l'alchimie. D'ailleurs, beaucoup d'alchimistes étaient des médecins.
Oui. Mais je pense que ça correspond à des strates dans l'histoire de l'alchimie. C'est-à-dire que là, on a évoqué précédemment plutôt l'alchimie métallique au Moyen-Âge avec toutes les grandes figures. Et là, vous avez un virage à la Renaissance avec Paracels, donc, qui lui est médecin, et qui va faire évoluer donc, l'alchimie vers la médecine. Pour lui, l'alchimie est une science qui aide à permettre à l'homme de se maintenir en bonne santé et à corriger d'une part la chute adamique, parce que pour lui c'est extrêmement important, et ça aussi les troubles qui pourraient
correspondre. La chute adamique, c'est-à-dire au fond la maladie, enfin le départ de comment dirais-je, c'est biblique ça.
Oui c'est ça, absolument ça d'une part, et puis d'autre part
la
fin du paradis terrestre, absolument, ouais. Et puis d'autre part également le fait qu'il y a des troubles entre l'homme par rapport à son système astral et à ses planètes, ouais. Et donc c'est pour ça que l'alchimie doit servir en tant que telle.
Il y a de tout dans l'alchimie, il y a de la médecine, il y a de la métallurgie, il y a toutes les sciences, l'astronomie, il y a Newton aussi s'est intéressé, ouais. Vous dites même qu'il était alchimiste, Alain Kerouel.
Surtout, oui, il était surtout alchimiste, alors ça c'est assez bizarre parce que tout le monde le connaît comme étant un grand savant, mais il a passé pratiquement 1 an et demi, 2 ans à faire ses recherches de savant, et il a passé 10 ans, plus de 10 ans à faire des travaux sur l'alchimie. Il a failli en mourir d'ailleurs parce qu'il a failli avoir une intoxication au plomb, et il a été pendant le coma, mais il a été dans un état relativement difficile pendant 1 an à peu près. Et puis après, bon, il a arrêté ses travaux alchimiques parce qu'il n'a pas réussi. Il cherchait lui aussi le mercure principe dont on parlait tout à l'heure. Il a pensé que c'était l'antimoine et il ne l'a pas trouvé.
Alors ça, c'est des gens sérieux. En revanche, ce dont a souffert l'alchimie, c'est qu'il y a eu beaucoup de charlatans, bien entendu, oui, dans cette affaire. Vous citez par exemple, il était célèbre, le comte de Saint-Germain.
Le comte de Saint-Germain, oui. Alors le comte de Saint-Germain, si vous voulez, lui, justement, il est dans la lignée des alchimistes qui s'intéressent à l'élixir, d'une part, parce que c'est le brevet de longue vie, bien entendu, et puis également aux pierres précieuses. Je dirais que c'est surtout ça. Alors que je vois, par exemple, son contemporain qui est Cagliostro, lui, c'est l'or, pas tellement les pierres précieuses, surtout l'or, et également la médecine. Donc, vous voyez, il y a un peu, et puis le dernier, alors c'est Mesmer, et bien le dernier, c'est plutôt le baquet de Mesmer. Donc, c'est plutôt l'élixir de longue vie, c'est plutôt le remède universel.
Ouais. Mais Saint-Germain, par exemple, on faisait croire que Saint-Germain avait vécu, que le comte de Saint-Germain avait vécu plus de, oui, près de 400 ans, c'est,
ouais,
ça,
ouais. Oui, mais alors il y a eu des témoins, c'est pour ça que c'est bon. Je dirais qu'il y avait une femme, qui avait été ambassadrice à la cour de Venise, qui l'aurait rencontré et qu'il rencontrait 50 ans après, alors qu'il avait toujours la même allure. Enfin bon, alors que ça lui aurait donné un âge de 95 ou de 100 ans, je ne sais plus. Enfin, ce genre-là.
Alors, ils ont beaucoup nui, évidemment, à la réputation de l'alchimie, mais ce qui l'a vraiment achevé, c'est bien sûr, ce sont les sciences, c'est la chimie. Quand, ouais, la chimie arrive, l'alchimie disparaît, c'est Lavoisier. Avec, ouais, avec la chimie, on ne peut plus croire en l'alchimie.
Ouais, alors, c'est assez... je dirais que ça ne se fait pas tout seul comme ça. C'est-à-dire que la perception de l'alchimie comme étant sujette à caution et une certaine opposition se font naître au XVIIe siècle. Hein, enfin, à la Renaissance, disons, 1500, 1600. C'est Mersenne, c'est Jean Rey qui commence à parler, je dirais, de plutôt de chimie que d'alchimie, et qui remarque le problème de l'augmentation de la carbonatation l'augmentation de poids à la carbonatation des métaux. C'est surtout ça qui rentre en jeu. Il va y avoir une mauvaise explication qui est donnée par Stahl et qui est une résurgence de l'alchimie, et va arriver Lavoisier donc dans les années 1770.
Puis il y a le rationalisme, il y a l'encyclopédie, il y a le siècle des Lumières, Diderot pourfend évidemment ou rend l'alchimie ridicule. Ça n'empêche pas d'ailleurs d'avoir survécu à toutes les critiques ou à tous les doutes dont elle a été l'objet, puisqu'on retrouve, il existe encore des alchimistes. Écoutez, l'un des plus célèbres alchimistes du XXe siècle, au micro de Jacques Chancel en 1978.
Eugène Cancelier, bonjour. En ces temps d'incertitude, je crois qu'il est bon de recevoir un homme comme vous, c'est-à-dire un alchimiste, et je me suis toujours demandé si vous étiez de ce temps.
Je ne serai plus de ce temps. Si j'avais trouvé la pierre.
Et l'idée que l'on se faisait de l'alchimiste a changé.
Ah, c'est très différent. Ce n'est plus le monsieur au chapeau pointu et à la robe constellée d'étoiles, n'est-ce pas? C'est le scientifique, philosophe, par surcroît, bien sûr. Et avant tout même, philosophe.
Mais pour certains, est-ce encore le mot charlatan que l'on prononce?
L'alchimie traditionnelle, bien sûr, dans les temps passés surtout, a entraîné avec elle des charlatans. Pour tout le monde, pour le commun, l'alchimie, c'était l'art de faire de l'or. Mais ça n'est pas cela. La possibilité de fabriquer du métal précieux est donnée par surcroît. Mais il faut avant tout trouver la pierre philosophale.
Et il y croit encore à la pierre philosophale, Eugène Gancelier, hein, même s'il est sceptique sur la transformation du plomb en or. Et il y a des alchimistes encore aujourd'hui, et il fait partie des grands noms de l'alchimie.
Il fait partie des grands noms de l'alchimie au XXe siècle.
Il est mort en 82,
c'était une cadeau. Oui. Absolument. Disons, bon, si on rebondit sur Gancelier, parce que le grand alchimiste avec un grand point d'interrogation au XXe siècle, c'est Fulcanelli, parce qu'on ne sait pas qui se cachait derrière ce pseudonyme. C'est assez courant, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a beaucoup de gens qui se cachaient derrière des pseudonymes dans l'histoire de l'alchimie. Mais là, Fulcanelli, on ne sait pas trop, c'est une histoire avec Gancelier, avec Champagne, avec Schwaller de Lubitsch, et c'est ce qui va donner, les œuvres de Fulcanelli, qui sont Le mystère des cathédrales en 1926 et Les demeures philosophales en 1930. Où là, si vous voulez, ce sont des guides, je dirais pas que c'est le guide de la France alchimique, mais c'est une description de certaines habitations ou de certains châteaux avec des emblèmes alchimiques, enfin bon, et des explications en particulier sur Bourges ou sur Notre-Dame de Paris et choses comme ça.
Toujours ésotérique. Est-ce que cet ésotérisme ne cherche pas à cacher au fond l'échec de l'alchimie, et on emploie des mots très savants au fond pour justifier ou pour dissimuler un échec, ou est-ce que cette pierre philosophale dont parlait Gancelier, c'est pas au fond une espèce de métaphore, c'est la recherche de soi-même, d'une espèce d'absolu dont manque le monde moderne, d'où l'existence encore des alchimistes à l'Inkerbell?
Je le pense, parce que si vous voulez, quand on regarde avec le recul de l'histoire, donc il y a le Moyen-Âge avec la période métallique, il y a la période de la Renaissance avec donc Paracelse, c'est la période, je dirais, médicale entre guillemets. Et comme il va y avoir, si vous voulez, des contradictions très fortes à cette alchimie, se développe au XVIIIe siècle une alchimie philosophique. Et il est assez bizarre, ou on peut peut-être employer un autre terme, mais qu'il y ait des connotations très étroites entre l'alchimie et la franc-maçonnerie qui naît à ce moment-là. Où, par exemple, on retrouve tout le vocabulaire alchimique et symbolique dans les initiations et dans les premiers grades de la franc-maçonnerie.
Ce serait, disait Jung, de l'alchimie, hein, il disait que c'était un grand œuvre intérieure, en fait.
Oui. Alors Jung, lui, il a une dimension différente, c'est qu'il parle de perception ahistorique de l'alchimie, et il pense qu'on renaît plus fort de ses souffrances. Donc c'est un grand œuvre intérieure, comme vous le disiez.
Merci Alain Kerbel, je rappelle que vous êtes l'auteur d'une histoire de l'alchimie qui a été publiée aux éditions Trajectoire dans la collection Les Mystères de l'Histoire. On peut lire également Alchimie, le grand secret d'Andrea Aromatico, publié chez Gallimard dans la collection Découverte. Vous avez pu entendre un extrait de l'émission Faut pas rêver de Sylvain Augier, diffusée sur France 3 en 1996, ainsi que des extraits des films suivants Notre-Dame de Paris de Jean Delannoy en DVD chez Studio Canal, Angélique Marquise des Anges de Bernard Borderie en coffret DVD Studio Canal, et enfin Harry Potter à l'école des sorciers de Chris Columbus, édité par Warner Home Video. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Fabrice Desmaz et Anne-Charlotte Guillem. Documentation, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Oliva. Une réalisation de Anne Kobilac.